Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial de fin de semaine, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui dans un pays d'Europe. À l'ordre du jour ce soir, Lettonie et héritage. Aujourd'hui, 9 mai, la Russie et certains pays issus de l'URSS ont célébré la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, pendant que l'Ukraine ou la Lettonie, pays au cœur de notre émission de ce soir, préféraient peut-être la date de la veille, le 8 mai, marquant ainsi une différence quant à l'héritage mémoriel de la Seconde Guerre mondiale. Car en Lettonie, comme dans les autres pays baltes, le 9 mai 1945 signe le début de l'occupation soviétique et la mise sous le boisseau de la culture lettonne. En 1991, à l'indépendance, en revanche, les Lettons représentaient à peine plus de la moitié de la population du pays. C'est ainsi que depuis s'est maintenu longtemps un enseignement en russe, ainsi que des chaînes de télévision et de radio dans cette langue. Mais le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a 2 ans, a durci les positions lettonnes, parfois accélérant le démantèlement des monuments rappelant l'ère soviétique et réduisant les espaces d'expression en russe. Nous allons en discuter avec nos deux invités qui sont toutes les deux à distance. Emilia Kustova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire russe et soviétique à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste de l'histoire socioculturelle russe et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ses héritages en Union soviétique. Et avec nous, deuxième invité, Una Bergmané, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des pays baltes et chercheuse à l'Institut Aleksanteri de l'Université d'Helsinki.
Y a-t-il un ennemi intérieur ? Je n'irai pas jusque-là pour le moment, mais il est certain que nous avons des difficultés à expliquer notre histoire à des gens qui croient toujours dans la version russe de l'histoire. Et là, il faudrait faire beaucoup plus. Est-ce un échec de notre vision de l'histoire ? Dans un certain sens, oui. C'est parce que nous avions ici un système éducatif divisé entre d'un côté les écoles en letton et de l'autre les écoles bilingues pour les groupes issus de l'immigration. Et la conséquence a été que ceux qui n'avaient pas suivi le programme scolaire letton ont été souvent influencés par la version russe de l'histoire.
Alors, une version russe de l'histoire, une version lettonne de l'histoire. Emilia Kustova, qu'est-ce qu'il faut dire autour de ces querelles, justement, d'héritage historique ?
Alors, ces querelles sont essentielles pour comprendre la situation en Lettonie, aujourd'hui, hier, mais aussi beaucoup plus largement dans toute la région balte, dans les trois pays baltes, et au-delà, en Europe de l'Est, en Ukraine, comme on l'a vu et comme on l'observe aujourd'hui avec l'agression russe et toute l'instrumentalisation de l'histoire. Donc, l'histoire en général et tout particulièrement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale sont très fortement instrumentalisées par la Russie. Ça s'est encore accentué depuis le 24 février et cela rencontre un rejet et une très forte tension de la part des gouvernements des pays qui ont acquis leur indépendance ou retrouvé leur indépendance depuis 91, comme la Lettonie, et qui depuis ont fourni beaucoup d'efforts pour construire un récit souvent complètement à l'opposé, enfin pour l'essentiel complètement à l'opposé de ce que fut le récit soviétique de l'histoire qui aujourd'hui est repris par Vladimir Poutine.
Una Bergmané, quand on a voulu préparer cette émission, on a trouvé beaucoup dans la presse le terme de dérussification et vous nous avez expliqué en préparant cette émission qu'il fallait surtout pas utiliser ce terme, qu'il était inconvenant d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de dérussification ce qui se passe, mais c'est autre chose. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Je crois que en fait la dérussification c'est un mot déjà comme on peut l'entendre c'est un mot qui est très chargé d'une violence symbolique et je pense qu'il représente pas tout à fait les intentions de la majorité de la population lettonne de Lettonie. C'est plus une volonté de prendre une distance avec la culture russe et surtout avec la Russie de Poutine en ce moment. Et c'est un geste de solidarité envers l'Ukraine, mais c'est aussi suite à une volonté qui est là depuis 1991, quand la Lettonie a retrouvé son indépendance, de reconstruire ces pays, reconstruire cet État et reconstruire ces sociétés tout en intégrant nos compatriotes russophones, mais faire cette intégration autour de la langue lettonne et autour de la culture lettonne.
Et c'est ce que je disais en tout début d'émission qui m'a un peu surpris en préparant cette émission avec toute l'équipe du Temps du Débat, ça a été de se dire qu'il n'y avait que la moitié, un peu plus de la moitié de la population en 1991 qui était donc lettonne et qui peut-être parlait le letton, était de culture lettonne. L'autre moitié était représentée par qui d'une certaine manière, Una Bergmané?
Donc, pour une petite mise en contexte historique, donc la Lettonie était un pays qui était indépendant entre les deux guerres, et donc vers la fin des années 30, les Lettons représentaient 75% à peu près des habitants du pays. Mm-hmm. Mais effectivement, à la fin d'époque soviétique, vers la fin des années 80, on voit en fait que les Lettons sont réduits a quasi un statut de minorité dans leur propre pays. Pourquoi? C'est suite aux politiques soviétiques, les politiques d'immigration. Donc, on voit une arrivée des grandes vagues d'immigration de d'autres pays, d'autres républiques soviétiques.
Ah oui. Quand on dit les Russes, ce ne sont pas forcément des Russes. Ça peut être des Ukrainiens, des Kazakhs, des oui. Biélorusses, etc., etc., qui arrivent en Lettonie.
Dans la plupart des cas, ce sont des Russes, mais aussi des Ukrainiens et des Biélorusses. La migration de l'Asie centrale n'est pas très importante.
D'accord.
Donc, ceux qui se trouvent dans cette position privilégiée, quelque part, de venir s'installer dans les pays baltes, qui sont quand même des régions riches de l'Union soviétique, ce sont surtout ceux qui parlent très bien russe, donc les russophones, mais les Russes, mais aussi des Biélorusses et des Ukrainiens.
Oui, et donc effectivement, il a fallu d'une certaine manière redonner de l'importance à la langue lettonne, à la culture lettonne, et c'est ce à quoi se sont attachés les différents gouvernements Emilia Kustova qui ont été au pouvoir depuis 1991.
Au cœur, on peut dire, du projet national letton, depuis la fin des années 80. Et dans ce qu'on vient d'évoquer, il me semble aussi très important de rappeler cette idée de l'apprentissage de la citoyenneté. Mmh. Et en fait, suite à l'indépendance, il y a une catégorie très particulière qui émerge suite à un vote du Parlement letton, cette catégorie de non-citoyens, c'est-à-dire les populations donc installées en Lettonie depuis son annexion par l'Union soviétique qui ne pouvaient pas prouver qui n'avaient pas d'ancêtres citoyens de la Lettonie indépendante de l'entre-deux-guerres. Mmh. Et donc, pour ces non-citoyens, il était prévu un mécanisme de naturalisation qui consistait notamment dans deux examens, un examen de langue et de l'histoire lettonne. Et ça montre vraiment ce qui est au cœur de cette nation lettonne contemporaine. Donc, une langue commune, dont la maîtrise devient obligatoire pour tous ceux qui veulent être citoyens lettons, et puis une sorte d'union exigée autour de, on peut dire, la version lettonne de l'histoire qui est en grande partie opposée à celle soviétique et russe.
Oui, alors ça c'est important parce que ça fait partie des tensions actuelles que l'on peut peut-être ressentir, en tout cas à distance, c'est comme cela qu'on le voit, Una Bergmané, des tensions entre justement ceux qui ne maîtrisent pas totalement ni la langue, ni la culture, ni l'histoire de la Lettonie telle qu'elle est racontée aujourd'hui, et qui se retrouvent dans une position un peu de citoyenneté différente, voire avec parfois les risques d'expulsion vers la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette question des examens qui sont à passer quand on est justement un citoyen de culture russe d'origine dans la Lettonie d'aujourd'hui, encore plusieurs décennies après l'indépendance dont on a parlé?
Donc, c'est des cas assez spécifiques, mais je vais essayer à apporter quelques détails. Donc déjà, les non-citoyens constitue à peu près 10% de la population. C'est un statut juridique très spécifique, ce sont pas des apatrides. Donc même si ce sont des gens qui n'ont pas opté pour cette possibilité de passer l'examen des langues et de l'examen des connaissances d'histoire et un peu de connaissances civiques, Mais ils n'ont pas non plus opté pour la possibilité d'obtenir la citoyenneté russe, ce qui était aussi une possibilité pour eux. Mais ils ne sont pas apatrides car ils ont l'accès à la sécurité sociale. L'État letton les protège à l'étranger comme des citoyens lettons, etc., etc. Mais par contre, ils ne peuvent pas voter et ils ne peuvent pas servir dans l'armée lettonne. Les mots que vous venez d'évoquer, les expulsions, ça pourrait éventuellement concerner une groupe autre que les non-citoyens, une groupe assez différente, les citoyens russes qui résident en Lettonie, mais qui auparavant ont été soit les non-citoyens, soit les citoyens lettons. C'est une groupe de personnes à peu près de 20 000, et donc il y a 2 ans, les parlements lettons, juste avant les élections, a voté une loi qui était beaucoup discutée et débattue aussi en Lettonie, aussi parmi les Lettons, une loi qui prévoit que donc ces citoyens russes, qui auparavant étaient non citoyens ou citoyens lettons, s'ils souhaitent renouveler leur autorisation de résidence en Lettonie, la résidence permanente, ils doivent donc passer un test de langue d'un niveau assez basique, mais quand même prouver des connaissances minimales du letton. Et donc, ils ont à peu près 2 ans pour passer ce test de langue. Ils peuvent faire plusieurs tentatives. Et donc, si je ne me trompe pas, cette groupe constitue à peu près 17 000 personnes. Et la moitié, selon les dernières nouvelles, a déjà passé cet test. Après, il y a aussi une autre possibilité pour les gens qui n'ont pas passé le test des langues. Ils peuvent quand même demander une autorisation de résidence temporaire. Donc, ça ne veut pas non plus
dire qu'ils sont renvoyés en Russie.
Exactement, une expulsion immédiate.
Oui, et donc on voit bien effectivement que cette question de la langue, de la connaissance de la culture lettonne, etc., quelque chose qui frotte, pourrait-on dire, Emilia Kustova, et même si ce nombre de personnes qui n'ont pas obtenu cet examen, eh bien, sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure du temps, pourrait-on dire, il en reste encore quelques-uns, et certains imaginent qu'il s'agit là d'une sorte de discrimination à l'intérieur de la société lettonne. Qu'est-ce qu'il faut en dire ?
Alors, vous avez utilisé le mot « frotter ». J'ai envie de dire que ça frotte de moins en moins. Ça se voit aussi dans les chiffres cités par Una tout à l'heure. Donc, elle parle de... Aujourd'hui, ils sont à peu près 10% à ne pas avoir voulu ou pu passer les examens pour donc être naturalisés. Ces non-citoyens étaient à peu près un tiers... En 91, donc on voit avec quelle vitesse finalement
l'intégration
leur nom.
Voilà,
ils ont été naturalisés, donc ils ont accédé à la citoyenneté, mais c'est une autre question de savoir est-ce que par là ça signifie finalement une véritable intégration et un partage des mêmes valeurs, d'une même vision du monde avec le reste de la société lettonne. Et je pense que c'est là-dessus aussi que porte beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui en Lettonie, d'où l'idée de mieux fédérer autour d'un récit de l'histoire et du présent aussi partagé, et aussi mieux contrer les influences russes, qu'elles passent par les médias russes ou russophones, ou qu'elles passent encore par la continuité de cette culture commémorative autour de la Seconde Guerre mondiale et qui est donc très fortement instrumentalisée par Poutine.
Alors, on va y venir à ces questions d'usage de l'histoire, mais peut-être sur cette question de roman national, comme on le dit souvent en France à propos de ce qui a été construit en particulier pendant la Troisième République avec les manuels d'histoire que nous avons pu connaître. Ce roman national, quel est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques grandes lignes, Una Bergmanet, telles qu'il est raconté aux jeunes lettons et aux jeunes lettonnes dans ce pays?
Donc, la vision qui est partagée par l'État et aussi par la société, et je veux dire aussi par de plus en plus de jeunes russophones de Lettonie, L'effet principal sur lequel se centrent les débats, mais aussi un consensus que je pense émerge lentement et graduellement, donc cet argument que la Lettonie n'a pas accédé à l'Union soviétique volontairement. Mmh. Et c'est pas juste un narratif ou un discours, c'est un fait. Donc si on regarde historiquement ce qui s'est passé en 1940, c'était une occupation et puis c'était une annexion qui n'était pas légale d'un point de vue des droits internationaux. Et c'est exactement pour ça que, par exemple, les pays comme la France, mais aussi les États-Unis et la plupart des pays occidentaux n'ont pas reconnu cette annexion des pays baltes par l'Union soviétique comme légale d'un point de vue des droits internationaux.
Oui, il faut rappeler que cette annexion, c'est celle qui est issue du pacte germano-soviétique, effectivement, après que ce pacte ait été signé à la fois par l'Union soviétique et par l'Allemagne nazie.
Oui, exactement, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'en Lettonie, on utilise le mot occupation pour parler de cette période soviétique. Et dans les discours et dans les débats à l'intérieur du pays, ça a été une question très importante, par exemple, pour des hommes et des femmes politiques issus de cette des partis russophones du pays, mm-hmm. de les entendre dire les mots occupation, de reconnaître que cette... que ce pouvoir soviétique en Lettonie n'était ni souhaité ni légitime.
Et sur ce point, justement, de votre côté, Emilia Kustova, cette écriture d'une nouvelle histoire de la Lettonie, qui peut-être prend racine beaucoup plus loin dans le temps, parce que ça, c'est pour le XXe siècle, tel que le raconte Una Bachmané, mais j'imagine qu'on remonte effectivement à la Baltique, à la période médiévale, etc., etc., pour tenter de raconter l'histoire de cet espace géographique dans le temps long.
Oui, tout à fait. Bon, dans ce cas-là, si on remonte à l'époque médiévale, le récit, le roman national s'écrit surtout autour d'un territoire, d'un peuple, d'une langue, encore une fois, puisque il faut le rappeler que jusqu'au XXe siècle, la nation lettonne ne possède pas son État indépendant. Donc il y a d'une part plusieurs siècles de domination germanique ou germano-balte, puis il y a l'annexion de ces territoires par l'Empire russe, et donc cette domination pendant près de deux siècles de la part de la Russie. Donc ce roman national s'écrit autour d'un attachement très fort au territoire, aussi avec l'idée d'un peuple qui vit en continu sur le même territoire et qui se construit autour d'une tradition, d'abord orale, puis écrite, puis la langue, et puis bien sûr les élites qui notamment émergent avec leur identité lettonne au XIXe siècle, notamment dans la deuxième moitié du XIXe siècle, quand a lieu un véritable éveil de cette future nation lettonne.
Oui,
parce qu'auparavant,
les élites peuvent être justement issues d'une aristocratie allemande. Et cela, c'est important que de le faire comprendre aux Lettons en majorité, et d'une certaine manière de faire obstacle à l'interprétation russe de l'histoire telle qu'elle est déployée aujourd'hui par le régime de Vladimir Poutine. C'est cela, Una Bachmané?
Je dirais qu'en fait, en Lettonie, les plus grands débats sur l'histoire touchent au XXe siècle. Donc, mais puis certes, bien sûr, je pense que c'est important de rappeler, et c'est aussi quelque part, c'est vrai que dans les récits nationaux, on met aussi l'accent sur cette idée que l'influence russe, l'influence de la culture russe, c'est une influence parmi d'autres. Mmh. Donc, le territoire de Lettonie, certes, a fait partie de l'Empire russe, mais aussi des royaumes de la Suède et aussi de la Pologne-Lituanie, et que vous avez déjà évoqué la présence des Allemands baltes qui sont là sur le territoire de Lettonie actuelle depuis le XIIe siècle. Donc,
ça veut dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas l'opposition qu'il peut y avoir aujourd'hui, et on peut le comprendre dans la culture ukrainienne, à la culture russe en tant que telle, d'une certaine manière. On n'en est pas à se dire, nous ne montons pas telle ou telle pièce de Tchekhov ou telle ou telle, nous ne faisons pas la propagande pour tel ou tel roman de Bulgakov, parce que, justement, on ne peut plus entendre parler de cette culture russe. Ça n'est pas le cas en Lettonie pour l'instant.
Comme je viens de dire un peu auparavant, quand même, on voit une volonté de prendre la distance avec la culture russe. Et j'explique pourquoi. Déjà, par la solidarité envers l'Ukraine, parce qu'on voit que cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine est menée quand même avec l'idée que la culture ukrainienne n'existe pas, que la nation ukrainienne n'existe pas, et que c'est la grande culture russe qui est supérieur quelque part à cet peuple inexistant. Et donc, par solidarité avec l'Ukraine, on entend les gens dire en Lettonie, mais pourquoi encore une fois lire Dostoïevski? On l'a lu tellement de fois, surtout à l'époque soviétique où quand même la culture russe était imposée comme l'exemple à toutes les cultures des peuples des habitants de l'Union soviétique. Donc, pourquoi pas ne pas s'intéresser davantage en ces moments historiques à la culture ukrainienne ou encore regarder la culture des autres cultures de notre région comme nos voisins lituaniens, estoniens ou suédois.
Merci beaucoup. On fait une petite pause avec vous. Il est 18h41 sur France Culture. Nous sommes dans l'émission spéciale que nous ferons maintenant jusqu'aux élections européennes les deux derniers jours de la semaine. On est jeudi. Cette émission s'appelle le terme du débat européen. Et nous parlons aujourd'hui de culture russe et de Lettonie, des héritages de cette culture russe dans la Lettonie contemporaine. En compagnie, vous venez de l'entendre, de Una Bergmane, qui est historienne spécialiste des Pays-Baltes et chercheuse à l'Institut Alexandre à l'université d'Helsinki, et d'Emilia Kustova, qui est professeure d'histoire russe et soviétique à l'université de Strasbourg.
Si l'on ferme le programme de la radio lettonne en langue russe, on ne sait tout simplement pas vers où ira ce public. On l'a déjà vu quand, par exemple, toutes ces télés d'État russes ont été fermées récemment en Lettonie. On a constaté que le public de ces programmes, qui était habitué à regarder cette propagande du Kremlin, ne s'est pas reporté sur les programmes en langue lettonne. Et ce sera la même chose avec la radio.
France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
Un extrait d'un reportage d'Arte, Lettonie sous influence russe. Il s'agissait d'Anita Brauna, qui est directrice de l'information de la radio lituanienne, la radio publique lettonne. Est-ce que l'on peut dire justement que cette question de la langue va jusqu'à se demander s'il faut ou non fermer des antennes qui, traditionnellement, depuis pas mal d'années maintenant, pas mal de décennies, s'adresser à la population russophone de Lettonie? Est-ce que c'est une des questions qui sont importantes, Emilia Kustova?
Oui, cette question s'est déjà posée. Donc, on a eu une réponse qui a été apportée et qui est donc contestée à l'intérieur même de la communauté de journalistes lettons. Et on comprend très bien à la fois la motivation de ceux au sein du Parlement qui décident de mettre fin à l'antenne russe dans les médias payés par l'État, enfin les médias publics. Cette préoccupation, c'est de pousser finalement le public russophone et les populations russophones de la Lettonie à définitivement passer à la langue lettonne comme source d'information. Mais on comprend aussi très bien l'inquiétude et le contre-argument qui a été évoqué par cette journaliste, c'est que ceux qui avaient l'habitude d'écouter les médias en langue russe, ils vont peut-être chercher leurs informations ailleurs. Cet ailleurs va très probablement se trouver du côté russe, donc ce sera la version poutinienne de la réalité qu'ils vont apprendre et partager. Or, il faut peut-être rappeler qu'il s'agit désormais en partie de ceux qui sont devenus électeurs. Ces populations russophones qui n'ont pas tout de suite accédé à la citoyenneté et donc au droit de vote en Lettonie dans les années 90, pour beaucoup, ce sont aujourd'hui des électeurs. Donc la préoccupation, elle est très forte de savoir qui on va retrouver comme citoyens si on leur coupe l'accès aux médias dans la langue russe. Sachant cependant qu'il existe toute une palette de médias en langue russe et qui sont produits par les opposants, par les notamment les journalistes qui ont quitté la Russie et
comme
qui pour beaucoup
Medusa.
Se sont installés en Lettonie, à Riga.
Oui, effectivement, et avec cette arrivée nouvelle depuis le début de la guerre en Ukraine, on peut le dire, Una Bergmane, d'une population russe opposante à Vladimir Poutine et qui veut exercer son métier de journaliste en particulier depuis la Lettonie.
Oui, la Lettonie a accueilli plusieurs médias russes d'opposition qui sont opposés à Vladimir Poutine. Et la question est, est-ce que les Russes... Parce que, quelque part, on avait cet espoir que les russophones de Lettonie, donc, ils vont aussi se tourner vers ces médias russes d'opposition. On ne sait pas toujours est-ce que c'était le cas. On peut espérer que si jamais cette décision vraiment est prise et on arrête le financement pour les contenus russes dans les médias publics, les russophones vont davantage peut-être utiliser les médias d'opposition russe, mais on peut pas en être sûr. Mm-hmm. Et je partage cette inquiétude des journalistes lettons. Surtout ceux qui travaillent dans les médias publics, que on prend un risque
en supprimant cette antenne.
Exactement, de voir ces populations tourner vers des sources qui sont manipulées, instrumentalisées par le régime de Poutine.
Oui, parce que effectivement, il y a ces questions. Et puis, puisque nous sommes le 9 mai, donc un jour dont il est difficile d'imaginer qu'il puisse être partagé à la fois par la Lettonie indépendante depuis 1991 et par effectivement ceux qui ont en souvenir l'Union soviétique et sa victoire sur l'Allemagne nazie, puisque c'est comme cela que c'était toujours présent. Jusqu'alors, il y a la question des monuments aussi, Emilia Koustova, qui est une question importante. Est-ce que c'est ça, c'est un héritage tangible, pourrait-on dire, de la présence soviétique dans la Lettonie depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1991? Et cette question est toujours là aussi en débat, puisque nous parlons des héritages.
Oui, alors c'est une présence tangible qui aujourd'hui est devenue plutôt une absence tangible, puisque la plupart de ces monuments ont été démontés, et notamment, le processus s'est vraiment accéléré depuis le 24 février 2022. Mm-hmm. Là, il y a plusieurs monuments emblématiques qui ont été démantelés, et ce sont les emplacements de ces monuments qui aujourd'hui constituent un lieu de mémoire extrêmement contesté et contestataire, puisque, par exemple, aujourd'hui, donc le 9 mai, c'est là que certains représentants de la communauté russophone sont allés déposer les fleurs en bravant l'interdiction de le faire qui est officielle.
C'est important, justement. Ça veut dire qu'il y a encore un récit qui est le récit de l'Union soviétique, qui est présent dans un pays qui a voulu se séparer de façon très volontariste de l'Union soviétique avec les autres pays baltes dès la chute de l'Union soviétique.
Tout à fait, mais il me semble, en fait, en revenant à ce que vous avez dit tout à l'heure sur deux récits irréconciliables, il me semble important de souligner que ces récits sont devenus définitivement irréconciliables aujourd'hui et depuis quelques années, et suite à une relecture de ce passé opérée par Vladimir Poutine. Je pense qu'à la fin des années 80, au début des années 90, il y avait des possibilités de les rendre, de les réconcilier, ou en tout cas de trouver une sorte de voie médiane qui tient compte de la complexité de cette histoire, de la nature tragique, extrêmement tragique, et de cette histoire et de sa mémoire dans ces différentes sociétés. Et cette occasion-là, elle a été perdue, détruite, notamment sous l'effet de la politique extrêmement agressive de Vladimir Poutine et de son instrumentalisation systématique de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
Una Bergmane, sur ce point, quant à la question des monuments, présents ou absents, comme vient de le dire Emilia Koustova.
Oui, c'est... Donc déjà, je pense qu'on doit nuancer un peu cette perception d'une Lettonie très divisée à travers des lignes ethniques et des récits qui sont entièrement partagés par les russophones et entièrement partagés par les Lettons. C'est vrai que la plupart des Lettons, vraiment, je pense 99%, voit le 9 mai comme un moment très difficile dans l'histoire de la Lettonie, parce que certes, la Lettonie était libérée de l'Allemagne nazie, mais cette libération n'est pas venue avec la liberté. Cette libération est venue avec une nouvelle occupation et des vagues de répression stalinienne, et donc c'était une libération sans liberté. Et donc, pour beaucoup de Lettons, fêter le 9 mai et non pas le 8 mai. Donc, le 8 mai, c'est un jour qui est commémoré en Lettonie pour la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Mais commémorer et célébrer le 9 mai, pour beaucoup de Lettons, ça veut dire célébrer et commémorer l'occupation, la deuxième occupation de Lettonie, et justifier, légitimiser les pouvoirs soviétiques. Mais parmi les russophones, je voudrais dire quand même qu'on voit une différence générationnelle. Pour les générations plus âgées, il y a un attachement très rigide à la grande victoire soviétique. Pour les jeunes, je voudrais aussi dire pour les jeunes plus éduqués, plus émergés dans les sociétés et dans la culture lettonne, il y a beaucoup plus d'une compréhension nuancée pourquoi cette journée est difficile pour des Lettons. Donc, je pense que cet clivage très strict, on le voit plus pour des générations plus anciennes.
Oui, vous avez travaillé sur ces questions des déportations, en particulier Emilia Koustova, des populations dans l'Union soviétique. Et ces déportations ont commencé très tôt. Elles ont commencé, je pense, dès 1940, mais surtout à partir de 1945. Est-ce que l'on sait combien de personnes ont été déportées de Lettonie à l'occasion justement de cette répression qui s'est abattue sur les Lettons après la fin de la Seconde Guerre mondiale?
Alors, effectivement, les déportations sont tout de suite utilisées par le régime stalinien dès l'annexion occupation et annexion des trois pays baltes en 1940. Donc, il y a une très grosse vague de déportations qui a lieu, en fait, une semaine avant l'attaque nazie en juin 1941. Ça se passe le 14 juin 1941. Et ça provoque un énorme choc dans les sociétés baltes touchées. Donc il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déportées quasiment en une journée, une nuit, dans des conditions extrêmement violentes. Et puis ces déportations reprennent effectivement dès 1944-45, donc au même moment où l'armée rouge revient sur le sol balte, et ça va durer jusqu'à quasiment 1953. Donc ces déportations, elles sont essentielles pour comprendre l'attitude des Lettons, des Lituaniens, des Estoniens par rapport à la fois au passé soviétique, mais aussi par rapport à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque pour eux, et ça reste encore dominant malgré tout ce qui a été fait dans ces pays pour aussi travailler sur l'histoire de la Shoah, mais en fait la Seconde Guerre mondiale, c'est avant tout la déportation soviétique de juin 1941 et puis la reprise des répressions à large échelle au retour de l'armée rouge.
Vous avez évoqué ce terme de Shoah, justement, Emilia Koustova. On sait combien les communautés juives de ces pays baltes ont été touchées majoritairement par la Shoah, justement, et combien elles ont été exterminées. Est-ce que cette question fait partie du débat aujourd'hui, sachant qu'effectivement, il y a eu aussi, comme dans d'autres pays de la région, il y a eu des collaboration avec ces éliminations et ces exterminations de juifs. Est-ce que cela fait partie du débat aujourd'hui, Emilia Koustova, en Lettonie ?
Oui, tout à fait. Et ben, comme c'est souvent le cas, quel que soit le pays, souvent on assiste aussi à un décalage entre le travail qui se fait par la communauté universitaire et notamment par les jeunes générations, mais pas uniquement, donc un travail d'écriture, de réécriture de l'histoire qui va loin et qui va aussi interroger ces points extrêmement douloureux
De collaboration.
La mémoire nationale.
Et de
la collaboration, de la participation à la Shoah, du fait que certaines personnes ayant activement collaboré avec les Allemands et participé à la Shoah vont ensuite se retrouver dans les rangs des opposants et vont s'insurger contre les soviétiques. Donc, ces deux facettes qui sont extrêmement difficiles à réconcilier quand on cherche à écrire justement un roman national, mais c'est beaucoup plus... Les historiens sont à même de le faire, et certains le font, et il y a des débats, et ça c'est très important. Et bien entendu, comme partout, dans toute l'Europe de l'Est, cette agression à large échelle contre l'Ukraine, l'agression russe, va rendre ce débat plus difficile et va aussi, je pense, rendre plus difficile le transfert entre le savoir qui est élaboré dans les universités et le débat public, qui
bien sûr
a plus tendance à
clivé de façon différente. Oui, Una Bergmanet, sur ce point, nous allons conclure cette émission, mais sur ce point, effectivement, de la difficulté de faire passer de l'histoire universitaire à l'histoire publique, pourrait-on dire, des notions complexes, justement, et qui ne soient pas des notions simplement clivées et un peu caricaturales.
Oui, tout à fait. Mais je vois vraiment mes collègues lettons dans les musées, mais aussi dans les universités, vraiment faire un travail très important pour inclure la société lettonne dans la commémoration des Shoah, de vraiment faire ressentir aux gens à travers des commémorations symboliques, etc., pas à travers leurs travaux, passer un récit dans la société lettonne que nos compatriotes juifs qui ont été assassinés pendant les Shoah en Lettonie, avec la collaboration de certains Lettons, que c'est une perte nationale et c'est une douleur partagée et dans laquelle on doit faire une démarche commémorative pour inclure cette tragédie dans notre récit national.
Merci en tout cas à toutes les deux, à vous Emilia Koustova, professeure d'histoire russe et soviétique à l'Université de Strasbourg et spécialiste de l'histoire socioculturelle russe et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de ses héritages dans l'Union soviétique. Et merci à vous Una Bergmanet d'avoir eu la gentillesse de participer à cette émission depuis Helsinki. Vous êtes chercheuse, vous êtes historienne spécialiste des Pays-Baltes et chercheuse à l'Institut Alexanteri de l'Université d'Helsinki. C'était donc le temps du débat, une émission préparée ce soir par Fanny Richet, Anouk Sevno, Roxane Poulain, Juliette Mouelic, Stéphanie Villeneuve, réalisée par Laurence Malondin, avec à la technique Florent Bujon. Demain, nous continuerons justement de parler de ces pays de l'Union européenne et des débats qui les traversent, et nous en parlerons à propos des Pays-Bas.